Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La planète connaît une période de mutation rarement vue. Sous l'impulsion du président américain Donald Trump, les cartes de la mondialisation semblent rebattues et la lutte contre le réchauffement climatique est combattue par les gouvernements de grands pays, les États-Unis encore eux, ou le Brésil. Pour évoquer ces sujets à l'orée de l'année 2019, il m'a semblé qu'il fallait inviter un économiste qui non seulement avait travaillé sur ces questions, mondialisation et économie climatique, mais qui aussi, par sa longue trajectoire, avait vu et entendu beaucoup de choses. C'est pourquoi vous êtes là, Roger Guenry. Merci d'avoir accepté mon invitation et bonjour.
Bonjour.
Roger Guenry, vous étiez il y a encore quelques jours à Atlanta, aux États-Unis, pour un congrès savant de la Société d'histoire économique où vous avez consacré une conférence à un de vos glorieux prédécesseurs, Léon Valras, un économiste français disparu il y a un peu plus d'un siècle. Pourquoi s'intéresser à Léon Valras aujourd'hui ?
Bien parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur le savoir économique. En particulier, il y a eu une réécriture du modèle valorassien, une réécriture modélisée, beaucoup plus modélisée, beaucoup plus
scientifique, donc
beaucoup plus scientifique, mathématisée scientifiquement. Il s'appelle le modèle d'Arrow de Breu.
Donc ça, c'est très savant, mais de quoi parle-t-il ?
Il parle de l'équilibre du monde, de l'équilibre de marché généralisé. C'est-à-dire il a un modèle qui décrit non pas un marché spécifique, mais l'ensemble des marchés, les interactions entre les marchés, il se pose un certain nombre de questions sur la logique de ces interactions. Mais son œuvre a eu beaucoup d'écho. Et moi, je la considère un petit peu comme le camp de base du savoir économique, c'est-à-dire un endroit où on peut se reposer les questions dans un monde où il y a des réponses relativement simples et essayer de voir ce qui se passe quand le monde est plus complexe.
Alors, vous êtes aujourd'hui, Roger Guenry, le président d'honneur de l'École d'économie de Paris, mais l'économie, ce n'était pas votre vocation initiale. Vous avez une formation d'ingénieur à la base. Vous êtes en effet ce qu'on appelle un X-Pont, élève de l'École Polytechnique, prestigieuse école française, et de l'École des Ponts et Chaussées comme spécialisation. Alors, comment le jeune ingénieur que vous étiez s'est-il retrouvé à faire de l'économie ?
Effectivement, j'ai eu un parcours assez standard, même si je suis issu de l'école communale, puisque mes parents exploitaient une petite ferme dans l'ouest de la France.
Êtes un produit de l'ascenseur républicain ?
Oui, absolument. Oui. Et donc j'ai suivi les rails qu'on m'a indiqués. Je me suis retrouvé effectivement à faire Polytechnique, École des Ponts. Et en même temps que l'École des Ponts, j'ai fait Sciences Po. Où j'ai suivi les cours d'économie. D'un côté, je suivais les cours d'économie de M. Barr, du côté de
Raymond Barr, l'ancien Premier ministre et grand économiste. Enfin.
Oui, bien sûr. Et de l'autre, je suivais ceux de Marcel Boiteux, qui enseignait le calcul économique à l'École des Ponts. Donc j'avais une vision assez contrastée de ce qu'était le savoir économique.
C'est-à-dire d'un côté
D'un côté, un savoir littéraire, et de l'autre côté, un savoir beaucoup plus formalisé.
Parce que Marcel Boiteux a été l'un des grands patrons de EDF.
Marcel Boiteux était un des grands patrons. Il s'est inscrit dans la ligne des ingénieurs économistes.
C'est un terme que vous revendiquez, ingénieur économiste
ou... C'est pas moi qui le revendique, c'est un terme qui recouvre toute une série de...
Je veux dire.
D'une certaine manière, oui. Je suis rattaché un peu à cette filière du fait que j'étais ingénieur et que je suis devenu économiste.
Alors vous avez fait beaucoup de recherches, Roger Guenry, beaucoup d'enseignements, en particulier assez longtemps au Collège de France où vous avez obtenu une chaire, aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on trouve votre nom sur de nombreux livres, je ne les citerai pas tous. L'un d'entre eux s'intitule sobrement « L'économie de marché » aux éditions Le Pommier. Il en est à sa 4e édition. C'est un livre où il est beaucoup question de mondialisation, nous en parlerons donc. Mais un des autres grands axes de votre travail, c'est l'économie climatique. Et voilà un autre texte intitulé « Pour une politique climatique globale, blocages et ouvertures » aux éditions du CEPREMAP. Des idées, des livres et des reportages aussi dans cette émission, bien sûr. Nous avons rendez-vous avec Sébastien Farcy en Inde, Yahya Boudandi au Burkina Faso et Pascal Guéricola au Canada. Roger Guenry, on va commencer par une question d'actualité. Je sais que c'est pas ce qui vous passionne, l'actualité, mais quand même, vous êtes sur une radio qui fait de l'information. Alors, l'actualité française, c'est en ce moment le mouvement des Gilets jaunes, qui s'illustre par ses revendications multiples, dont la première a été satisfaite par le gouvernement, à savoir l'annulation de la taxe carbone sur les carburants. Cette taxe carbone, elle fait partie des questions qui sont soumises aux Français dans le cadre du grand débat national initié par le président de la République. Quelle est votre position sur ce point-là? Cette taxe carbone, c'est un mal nécessaire? Le gouvernement a eu raison de la supprimer?
Bien, d'une part, j'ai une petite responsabilité dans la montée en puissance de cette idée, puisque le groupe 6 du Grenelle de l'environnement que je présidais avait suggéré ce qu'on appelait une contribution climat-énergie, qui ne s'appelait pas taxe carbone, mais qui avait les allures de la taxe carbone. Et j'ai participé à la commission Rocard qui a mis en place les éléments d'une taxe carbone.
Donc c'est quand Rocard était Premier ministre?
Non, c'était...
Dans le Grenelle
de l'environnement, c'est sous Sarkozy.
Sous Sarkozy, voilà.
Ensuite, il y a eu une commission présidée par Rocard qui a fait des propositions plus précises sur la taxe carbone et sur la fiscalité carbone. Et dont j'ai été membre, parmi d'autres, bien sûr.
Et donc, est-ce que vous battez votre coulpe aujourd'hui?
Alors, moi, j'ai toujours dit que j'étais pour une taxe carbone. J'ai même écrit là-dessus en 1974, donc ça fait déjà longtemps.
Plus de 40 ans, oui.
En mettant en garde contre les difficultés et les dangers. C'est-à-dire que je crois qu'une taxe carbone participe d'une logique de lutte contre le changement climatique, de façon... Mais qu'il faut évidemment tenir compte des gagnants et des perdants.
Alors,
et que quand vous modifiez le système fiscal, il faut non seulement que vous changez complètement ou que vous changez significativement un des éléments du système fiscal, il faut voir qui gagne et qui perd, et si possible compenser les perdants, si on veut avoir du soutien. Je crois que la maladresse qu'il y a eu dans cette affaire, c'est que la taxe carbone a été envisagée indépendamment du prix des carburants fossiles, du prix du pétrole. Et en particulier, elle était mise en application à un moment où le prix du pétrole était extrêmement élevé. Je crois que pour la bonne marche du système, il faudrait que ce soit la somme taxe carbone plus prix du pétrole qui s'accroisse d'une certaine manière régulièrement, mais qu'il n'y ait pas des fluctuations erratiques liées au mouvement erratique du prix du pétrole. Et si vous avez une taxe carbone au moment où le prix du pétrole monte, ça, c'est évidemment difficile, c'est évidemment très spectaculaire.
On va revenir à la base, Roger Guenry, avec vous, professeur Guenry. La taxe carbone, c'est quoi?
Si vous avez un problème environnemental, une pollution par exemple, je vais prendre une pollution assez au sens large du terme, qu'est-ce que vous avez comme outil pour la combattre? Vous avez fondamentalement, quand vous êtes dans la position du pouvoir public qui doit gérer ses affaires, vous avez trois types d'instruments. Le premièrement, c'est la réglementation. Vous dites, là, je veux pas qu'il y ait de sacs poubelles en plastique qui soient émis, c'est la réglementation, etc. Donc, c'est des règles quantitatives et puis impliquant...
Administratives
et impliquant un contrôle précis de ce qui est prévu par les textes. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle la taxation ou la subvention. Vous pouvez taxer la pollution pour dissuader les pollueurs de polluer. Vous pouvez soit subventionner la dépollution. Des fois, c'est possible. C'est pas toujours possible.
C'est-à-dire subventionner la dépollution, par exemple, c'est subventionner l'achat de voitures électriques.
Ben, par exemple, oui, ça peut être ça. Ça peut être... subventionner les entreprises qui réduisent leur montant de pollution, etc. Mais c'est assez difficile à mettre en place et ça a des effets sur les finances publiques qui sont pas très agréables non plus. Bon, la taxe ou la subvention sont vues par les économistes comme entrant dans la même catégorie. C'est une action sur le système de prix. C'est-à-dire que vous modifiez le système, le coût pour vous, pollueurs, de la pollution. Et donc, en mettant un coup sur la pollution, vous dissuadez les pollueurs de polluer. Et le troisième, c'est le marché de droit. Le marché de droit, c'est que vous donnez des droits aux pollueurs, mais vous les donnez ou vous les vendez aux enchères, ça dépend, là, etc., ce marché de droit. Mais les pollueurs ont le droit d'échanger ces droits. Il y a un marché de droits qui se met en place. C'est ce qu'a fait l'Europe avec l'European Trading Scheme, le schéma communautaire d'échange de quotas d'émissions. Qui touche une bonne partie des émissions européennes.
Mais alors, les pollueurs ont des permis à point, en quelque sorte.
Ont des permis, oui. Vous êtes pollueur, vous êtes une entreprise qui émet du CO2. Vous avez droit de... On vous donne ou on vous achetez. Ça dépend. La question de la gratuité ou de la non-gratuité des droits est une question importante et difficile et qu'il faut aborder avec beaucoup de soin. Donc vous avez ces droits, on vous donne ces droits, mais vous pouvez les échanger. Si vous, ça vous coûte pas cher, il s'établit un marché sur ces droits, avec un prix. Si vous, ça vous coûte pas cher de dépolluer, vous allez dépolluer beaucoup plus et donc vendre de vos droits à des gens qui en ont besoin parce qu'ils ont beaucoup de mal à dépolluer. Ça en quelque sorte, optimise la quantité de dépollution donnée à un moment donné, compte tenu des difficultés variables de dépollution selon les agents économiques.
Alors, dans les tentatives pour réduire la pollution, les difficultés sont innombrables. La bonne volonté ne suffit pas toujours face aux contradictions inhérentes des économies modernes. Exemple avec le Canada, quatrième producteur de pétrole au monde. Ce grand pays extrait des hydrocarbures très polluants de son sol. Les sables bitumineux nécessitent en effet l'injection de gaz pour chauffer le mélange et produire le pétrole qui est dans le sous-sol. Un quart des émissions de gaz à effet de serre produits dans ce pays proviennent d'ailleurs du secteur gazier et pétrolier, un pourcentage qui ne cesse d'augmenter. Pourtant, le gouvernement canadien dispose d'un plan pour limiter la pollution dans ce secteur et atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Un dossier Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Pascal Garicola à Montréal.
Vorace en énergie, les sables bitumineux contribuent à produire une bonne part des gaz à effet de serre générés par le Canada. Voilà pourquoi le gouvernement lance une série de mesures pour s'attaquer notamment dès 2020 au rejet de gaz méthane. James Diamond, du ministère de l'Environnement, a élaboré une partie de ce plan ambitieux qui devrait permettre de baisser de 40% les émissions de méthane d'ici 6 ans.
Les mesures se concentrent sur les fuites de méthane lorsqu'on envoie du gaz naturel pour extraire les sables bitumineux. Le méthane est beaucoup plus dommageable que le gaz carbonique en termes de gaz à effet de serre. Si l'on parvient à mieux le contrôler, on va donc avoir un plus grand impact pour limiter la pollution que si on s'attaquait simplement au CO2. Dans notre plan, on demande d'abord à l'industrie pétrolière de détecter les fuites dans le système, puis d'y mettre fin.
Le plan du gouvernement prévoit des inspections 3 fois par an sur les lieux de production pétrolière pour repérer les fuites éventuelles avec une caméra. L'installation de nouveaux équipements devrait aussi permettre de limiter la pollution. Dans un second temps, les autorités canadiennes vont faire payer aux compagnies pétrolières une certaine partie des tonnes de gaz carbonique produites lors de leur activité. Des mesures intéressantes, mais encore insuffisantes, selon Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Québec.
Même si on réduit les émissions de méthane par baril produit, le Canada veut augmenter la production totale de barils, et ça aura comme résultante que le secteur pétrolier gazier augmentera encore ses émissions, alors qu'on devrait rapidement plafonner la production et la réduire parce que c'est le principal secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre et c'est celui qui connaît la plus grande croissance au pays.
Signataire de l'accord de Paris, le Canada a quand même acheté un oléoduc pour permettre à la province de l'Alberta d'exporter son pétrole depuis le port de Vancouver. Une orientation complètement incompatible avec ses engagements environnementaux, selon les groupes écologistes.
Un reportage signé Pascal Guéricola dans Éco-d'ici et Éco-d'ailleurs, où nous recevons le grand économiste Roger Guenry. Roger Guenry, comment concilier ce besoin de ressources économiques et cette volonté de réduire la production de carbone? Dans ce cas-là, le contraste semble évident, la contradiction semble évidente.
Oui, d'après ce que j'ai entendu de votre reportage, j'ai l'impression que le gouvernement canadien est un peu schizophrène, c'est-à-dire fait des efforts dans des secteurs et relâche son attention dans d'autres secteurs. Effectivement, le Canada a pris des positions favorables à la lutte contre le changement climatique. Le Québec a esquissé un marché de droits qui serait lié d'ailleurs au marché de droits californien. Et donc il se passe des choses là-bas. Mais évidemment, deuxièmement, le Canada est producteur de pétrole et il y a des risques tels que ceux qui ont été décrits. Alors, est-ce que ce faisant, il est contraire, il fait des choses contraires aux accords de Paris? Il faut savoir ce que le Canada s'est engagé à faire aux accords de Paris. Hein. Les accords de Paris, c'est C'est des promesses de réduction des émissions qui ne sont pas contractuelles. Hein. Alors là, on a touché aussi à un autre domaine, hein, c'est la production de méthane. Hein, parce que dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas uniquement le gaz carbonique, il y a aussi le méthane, qui a une durée de vie beaucoup moins longue dans l'atmosphère, mais qui est aussi dommageable pour l'effet de serre.
Est-ce que vous allez participer au grand débat national impulsé par le président Macron? Est-ce que vous allez donner des idées de politique économique et climatique dans ce débat?
Je sais pas si je...
Vous avez déjà écrit beaucoup, parlé beaucoup.
J'ai déjà beaucoup écrit, oui. J'étais intéressé aux problèmes climatiques dans les années 2000. Je suis allé à un colloque organisé par des physiciens quelque part où j'ai essayé de comprendre quel était ce problème climatique. Et en 2003, j'ai été recruté au Conseil d'analyse économique et on m'a demandé de faire un rapport. On m'a dit.
Le Conseil d'analyse économique, c'est un organisme qui est près du Premier ministre.
C'est un organisme près du Premier ministre.
Qui
organisme
émet indépendant. Des notes.
Oui, qui n'est pas politique d'une couleur politique donnée, mais qui réunit des experts qui s'adressent au Premier ministre. Et on m'a demandé de rédiger un rapport et j'ai proposé de le faire sur la politique climatique. Ce rapport s'appelle Kyoto et l'économie de l'effet de serre. Et c'est un rapport dont je me rappelle parce que la première version de ce rapport, je l'ai présenté au Premier ministre Lionel Jospin. C'est une version provisoire. La version définitive, je l'ai présentée au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Oui, donc c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et il y a un ouvrage qui décrit nos conclusions, qui s'appelle Kyoto et l'économie de l'effet de serre.
Et donc vous allez le remettre sur le chantier?
Non, les choses ont évolué. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui sont passées dans le grand public. J'ai écrit d'autres livres, donc celui que vous avez indiqué aux éditions du CEPREMAP. Et j'ai aussi écrit un ouvrage avec Nicolas Stern qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques ». On discute beaucoup des problèmes de mise en place d'une oui. politique climatique.
Et les auditeurs pourront retrouver les mentions de ces ouvrages sur le site internet www.rfi.fr et sur la page des Codiciers. D'ailleurs, restons un peu en France. Ce que les manifestants des Gilets jaunes réclament, c'est aussi une meilleure rémunération de leur travail. On considère parfois ces Gilets jaunes comme les laissés pour compte de la mondialisation. Une mondialisation que vous décrivez dans vos écrits comme ayant, par l'extension du commerce, des effets redistributifs majeurs. Comment s'opèrent ces effets redistributifs de la mondialisation?
Ce qui se passe, c'est évidemment que les frontières se sont ouvertes, les droits de douane ont été beaucoup abaissés, et les entreprises délocalisent une partie de leur production, les entreprises des pays riches, vers les pays en développement où les salaires sont beaucoup plus faibles. Et donc il y a un effet distributif sur les travailleurs non qualifiés des pays riches, en particulier qui sont particulièrement éventuellement touchés. Alors moi je ne sais pas dans les Gilets jaunes quelle est la part liée, une des vraies questions, c'est que c'est un mouvement...
Je pense que personne ne le sait.
Oui, non, c'est un mouvement nouveau qui surprend tout le monde, et je ne sais pas quelle est la part dans la revendication des Gilets jaunes qui vient de leur...
Leur statut de travailleur non qualifié.
Oui, c'est parce que ce qui est dû à la mondialisation, ce qui est dû à leur... et ce qui est dû à un certain nombre d'autres facteurs qui sont le fait que leur situation sociale, qu'ils sont à la lisière des villes, qu'ils sont, etc. Donc ce qu'il y a derrière le phénomène gilet jaune, je ne le sais pas. Je ne suis pas le seul à ne pas le connaître.
Oui, je pense que tout le monde s'interroge
et donc,
encore.
Donc la part qui est liée aux effets de la mondialisation sur le bien-être d'une partie de la population, certainement, ils ne doivent pas être dans les gagnants.
Non, question, c'est un peu comment la mondialisation, au-delà de ce basculement d'un certain nombre de tâches dans les pays en voie de développement, affecte-t-elle une partie de la population travailleuse des pays développés pour en faire des travailleurs pauvres ou des chômeurs? Pourquoi est-ce que l'extension de la mondialisation, l'ouverture des frontières, l'accroissement du commerce international appauvrit certaines catégories de population? C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup écrit.
La mécanique simpliste, c'est que, en délocalisant une production, les entreprises des pays riches limitent leur demande de travail non qualifié, puisque une partie des tâches non qualifiées, c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est beaucoup trop caricatural ce que je suis en train de raconter. Une partie des tâches qualifiées est portée par les travailleurs des pays en développement. Et donc, la demande de travail non qualifié est plus faible. Donc, il y a une pression à la baisse sur le salaire des travailleurs non qualifiés. Par exemple, pour les États-Unis, vous savez quand même que pendant une trentaine d'années, jusqu'à 2010, je ne sais plus, je ne connais pas les chiffres récents, le salaire médian a augmenté de 0,5% depuis une trentaine d'années. Il est difficile de n'y voir de ne pas y voir des effets mondialisation. Quelle est la part des effets mondialisation? Là, il y a des débats au sein des économistes, parce qu'il y en a qui disent mais c'est lié au progrès technologique et au progrès d'innovation. Question, dans quelle mesure l'accroissement de la rapidité de l'innovation est-elle liée elle-même à la mondialisation? Et à une réponse des pertinente des pays riches et des entreprises dans les pays riches à ce qui se passe dans le monde entier. Moi, je pense qu'il y a un effet, qu'il y a des gagnants et des perdants dans la mondialisation. Alors, des perdants sans doute relatifs, puisqu'il y a des avantages, si vous achetez des biens produits par les Chinois qui sont moins chers, vous y gagnez, bien sûr. Mais vous êtes plus exposé aux aléas économiques, vous avez un salaire qui, vous avez des pressions sur votre salaire qui sont plutôt à la baisse. Quel est l'effet global? Ça doit dépendre pas mal à la fois des pays, des catégories sociales exactes et de toute une série de choses sur lesquelles je n'ai pas de réponse personnelle toute faite là-dessus.
Alors, c'est tout à votre honneur, Roger Guenry. Je rappelle que vous êtes l'invité des codiciers Co d'ailleurs sur RFI, où nous parlons donc mondialisation et climat. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous alliez nous dire que ça n'était pas la première mondialisation, en fait, celle dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, qu'il y en avait eu d'autres avant.
Oui, il y en a eu d'autres. Alors, je ne vais pas remonter au XVIe siècle, mais simplement ce qu'on appelle parfois la première mondialisation, celle du XIXe siècle, dont le point de départ est en 1846, qui est la date de l'abrogation de la loi sur les céréales en Angleterre. Loi sur les céréales qui protégeait les agriculteurs anglais contre la concurrence internationale. La première mondialisation a vu une extension du libre-échange, des traités de libre-échange, par exemple entre la France et l'Angleterre, il y a eu le traité Cobden-Chevalier vers 1860. Alors il y a eu deux phénomènes, il y a eu la baisse des coûts de transport qui étaient considérables, parce qu'il y a eu énormément de progrès techniques, d'amélioration des transports. Et il y a eu une baisse des...
C'est-à-dire, par exemple, on est passé de la marine à voile à la marine à vapeur?
Oui, on a inventé les réfrigérateurs, les vaisseaux frigorifiques, le chemin de fer s'est développé, c'est une série de passes. Donc, il y a eu énormément d'effets, baisse des coûts des transports.
Donc c'était aussi une période de grande mutation.
C'est une période de grande mutation, oui. Par exemple, le prix du blé à Odessa et New York... qui était très éloigné au début du siècle ou au milieu du siècle, est devenu assez proche à la fin du siècle.
À la fin du 19e.
Oui, alors cette globalisation a eu deux aspects, une période de montée en puissance qui s'est un petit peu arrêtée vers 1870-1880, dans lequel un certain nombre de pays, comme ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en France avec les lois Méline un peu plus tard, ont traîné des pieds dans l'idée d'accroître le libre-échange de la façon qui était mise en œuvre jusque-là. Et donc, en fait, la première mondialisation s'est un peu arrêtée au début du XXe siècle, un peu avant la Seconde Guerre mondiale.
Et quelles leçons de cette première mondialisation tirez-vous et voyez-vous des parallèles, des points communs ou des différences majeures avec l'actuelle mondialisation?
La première chose que je vois, c'est que l'émergence des explications de cette première mondialisation a été très lente. Les économistes, c'est-à-dire qu'il y a, si vous regardez toute la première mondialisation et ce qu'ont écrit les économistes pendant cette période, ça dit pas grand-chose sur ce qui se passe.
Ben, l'économiste dont nous parlions début de l'émission, Léon Valras, il travaille
époque. Non, oui, mais il ne travaille pas sur la mondialisation. La plupart des économistes de cette période ne travaillent pas sur la mondialisation. Il y a Ricardo qui a...
Mais est-ce que les économistes de cette période-là avaient même conscience de ce phénomène? Est-ce qu'on appelait ça...
Il y a une grande lenteur dans les modifications. Par exemple, un des effets de la première mondialisation, c'est que la taxe foncière... la rente foncière a été multipliée par 5 en Australie, où il y a eu une forte demande pour les produits agricoles, et a été divisée par 2 en Grande-Bretagne, où évidemment l'agriculture a pâti de cette extension du libre-échange. Donc 2 divisé par 2 multiplié par 5, ça fait un écart de 1 à 10 pour la rente foncière. Mais c'est des choses qui se passent très lentement. Je dis toujours, en économie, il y a deux choses qu'on comprend pas très bien. Le problème, c'est le problème des avalanches. Et le deuxième, c'est le problème des plaques tectoniques.
Expliquez-nous ça.
Alors, les avalanches, c'est comme une avalanche, vous êtes un guide de haute montagne, vous savez qu'il vaut mieux pas passer là à certains moments parce que ça va se déclencher, mais vous savez pas exactement comment. Ben, c'est un peu la position des économistes vis-à-vis des bulles. On sait en général que quand il y a une bulle qui se développe sur un marché, ça va s'effondrer. Si on savait le moment où ça s'effondrerait immédiatement. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est le problème des avalanches. Les plaques tectoniques, ben, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on ouvre les frontières et qu'il y a des mouvements profonds qui se font, des mouvements de longue haleine, comme l'effet sur les rentes, sur le prix du foncier pendant un siècle, où les choses se passent. Il se passe rien sur 5 ans. Si vous regardez ces variables sur 5 ans, il se passe pas grand chose. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on a commencé à bien comprendre ce qui s'est passé dans la première mondialisation, avec des études qui ont suivi la mondialisation vers 1920, qui mettait l'accent sur l'égalisation du coût des facteurs, qui disait que la mondialisation impliquait des commerces sur les biens, mais qu'elle conduisait à égaliser les prix des facteurs dans les pays qui étaient en concurrence.
Qu'est-ce qu'on appelle les facteurs, brièvement ?
Le facteur, c'est le travail, le capital, les différentes catégories de travail. Le travail qualifié, le travail non qualifié, le capital, la terre...
Alors on va aller voir ces questions de facteurs, de capital, de travail en Inde. En juin dernier, l'un des grands États indiens, l'un des plus grands, le Maharashtra, qui compte Bombay comme capitale, a mis en place une interdiction stricte de la production et de l'utilisation de différentes sortes de plastiques à usage unique. Ceci dans le but de freiner l'énorme pollution que ces déchets entraînent. Ce plastique est en effet régulièrement jeté dans les égouts, bloque les canalisations et entraîne des inondations catastrophiques dans cette ville géante de 20 millions d'habitants. Ces plastiques sont également rejetés dans la mer où ils tuent des animaux, les poissons qui les ingurgitent. Ce n'est toutefois pas le premier État indien à instaurer une telle interdiction et les résultats sont pour l'instant mitigés. Comment est réellement appliquée cette mesure ? C'est un reportage codifié d'ailleurs de l'envoyé spécial de RFI à Bombay, Sébastien Farsi.
Avant, il y avait du plastique partout ici. Maintenant, on ne voit plus de plastique car les gens prennent des sacs en toile.
Ravi Jatare, l'inspecteur municipal du marché de Kourla, dans le nord de Bombay, réalise son contrôle quotidien pour s'assurer que les commerçants ne possèdent pas des sacs en plastique léger interdits depuis la fin juin. Chez le boucher, nous lui indiquons de grands sacs à l'aspect suspect, vendus pour une petite somme.
Ces sacs sont autorisés, ils comprennent du plastique, mais au bout de quelques mois, ils commencent à se biodégrader.
Dans ce marché, la loi est donc bien respectée. Il faut dire que l'amende est sévère. 5000 roupies, soit 60 euros, cela représente le tiers d'un revenu mensuel moyen d'un Indien. En revenant sans l'inspecteur, les commerçants nous disent comprendre la logique.
Cette loi est bonne, au début les gens râlaient, mais maintenant ils apportent leurs sacs en toile, ou alors nous leur en vendons. Nous n'avons donc plus à payer pour les petits sacs en plastique. Nous leur offrons juste du papier journal. Son prix a d'ailleurs doublé depuis l'interdiction des sacs en plastique, mais ça reste un peu cher.
Mais sorti de cet espace bien contrôlé, l'anarchie de Bombay reprend ses droits. En face du marché, un commerçant vend par exemple des verres et assiettes en plastique blanc censés être interdits. Et plus loin, deux vendeurs ambulants emballent leurs fruits dans de petits sacs plastique noirs bannis. L'un d'entre eux, le regard fuyant, se justifie.
Qu'est-ce que je peux faire ? Les clients ne veulent pas de papier journal. C'est pas pratique à porter quand ils prennent beaucoup de fruits. Donc j'utilise ces sacs. Si je vois la police, je pars en courant.
L'association de producteurs de plastique affirme que cette interdiction soudaine et sans préparation a affecté 10 000 usines. Elle soutient qu'il faudrait plutôt renforcer la filière de récupération et de recyclage du plastique plutôt que de l'interdire. Il n'empêche, selon Stalinde, directeur de l'association environnementale Vanashakti, les bénéfices sont déjà visibles.
La réduction de consommation du plastique non biodégradable a beaucoup aidé à réduire la pollution maritime. Si vous allez dans les mangroves de Bombay, vous trouverez des centaines de tonnes de vieux plastique encastrés dans les racines et que personne ne pourra nettoyer et qui tue ces plantes. Mais on voit qu'il y a beaucoup moins de nouveaux déchets plastiques.
La mer au large de Bombay est l'une des plus polluées du monde, selon une compilation d'études mondiales publiée l'année dernière, et le plastique est la première source de cette pollution.
Un reportage signé Sébastien Farcy à Bombay, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où notre invité unique, l'économiste Roger Guenry, président d'honneur de l'École d'économie de Paris. Roger Guenry, on retrouve là les contradictions qu'on avait trouvées tout à l'heure dans ce reportage de Pascal Guéricola au Canada, entre les impératifs du fonctionnement économique et puis la volonté de décarboner l'économie mondiale.
Je crois que ça illustre bien les catégories que j'avais mises en avant tout à l'heure. Il y a trois possibilités. Vous faites de la réglementation, vous faites des taxes ou vous faites un marché de permis. Là, on a pris, c'est là le cas des plastiques, on a mis en place des mesures d'interdiction, c'est de la réglementation, avec des pénalités fortes par ceux qui ne les respectent pas. Alors ça marche pas toujours très bien, mais c'est un cas dans lequel ça fait sens, évidemment. Alors bien sûr, ça fait sens, mais ça crée des problèmes à ceux qui ont investi dans les années précédentes sur ce plastique, qui n'était pas interdit, et qui ont mis en place des capacités de production, etc. Alors ça c'est une vraie difficulté de la politique climatique, c'est la même chose pour la taxe carbone. Si on n'avait pas de problème climatique, on n'aurait pas besoin de taxe carbone, et les gens ont fait des tas de projets dans le passé qui ne prenaient pas en compte cette taxe carbone, et donc ils vivent relativement mal le changement d'objectifs et le changement de moyens qui sont mis à la disposition des pouvoirs publics.
Au mois d'octobre dernier, Roger Guenry, le prix Nobel d'économie a été attribué à deux économistes américains, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, dont l'un, William Nordhaus, défend l'idée d'une taxation mondiale du carbone, qu'il préfère à un prix établi par le marché, par l'offre et la demande. La taxation mondiale du carbone, c'est possible ?
En général, les économistes... D'abord, William Nordhaus a plusieurs propositions différentes. L'une, ça consiste à dire qu'il faut faire des clubs climatiques, c'est-à-dire des pays qui qui font une politique climatique, créent un club et créent des liens entre leur politique climatique via les marchés d'émissions, par exemple.
Des
un club climatique,
la...
mais l'Europe, c'est un club climatique. Et lui, Nordhaus disait que le club climatique... Alors, le problème, c'est que vous taxez le carbone dans vos frontières et vous êtes moins compétitif sur les produits taxés. Par exemple, l'aluminium, etc., qui produit du carbone, si vous le taxez en Europe... il peut être produit ailleurs et il peut aussi les entreprises peuvent se délocaliser. Donc il y a un problème de commerce international. Et autrefois, on privilégiait l'idée d'ajustement aux frontières, de dire maintenant cette idée est un peu oubliée. Et Nordhaus disait les clubs climatiques devraient mettre des tarifs douaniers à la touchant tous les biens des gens qui ne participent pas à ces clubs climatiques. Ce qui est une opinion...
C'est du protectionnisme.
Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire c'est du protectionnisme basé sur l'urgence de la politique climatique. Alors maintenant, ça c'est une direction. Le problème, c'est que on est actuellement dans le moment où on peut faire des petits ruisseaux. Il y a toute une série de petits ruisseaux qui se mettent en place. Et la COP de Paris va accélérer la mise en place de petits ruisseaux, malgré les problèmes que vous avez mentionnés. Maintenant, l'idée, c'est s'arrêter d'une grande rivière. Kyoto, le protocole de Kyoto dans sa première version, c'était plutôt l'idée d'une grande rivière. C'est-à-dire, on mettait un marché mondial du carbone entre les États membres, entre tous les États participants. Et donc, le problème, c'est qu'il fallait allouer les droits d'émission entre les pays, et que tout ça n'est pas extraordinairement simple. Alors, une taxe carbone mondiale est un substitut à ce marché de carbone mondial qui serait idéal si j'étais nommé dictateur mondial. J'opérais de façon bienveillante. À ce moment-là, je donnerais des droits d'émission par tête égaux à tous les gens dans le monde et je ferais des marchés d'émission. Mais évidemment, ça poserait des petits problèmes parce que l'Inde, à ce moment-là, aurait 18% des droits d'émission et les États-Unis 6% quand leurs émissions sont
infiniment supérieures.
Ben, lorsque les émissions de l'Inde sont 6%, c'est les États-Unis 18%. Ouais. Donc ça n'a
aucun sens.
Ça n'a aucune raison de passer, aucune chance de passer, Trump ou non. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver au niveau mondial? Une taxe carbone au niveau mondial sur laquelle il y aurait un accord et des modalités de perception, oui, pourquoi pas. Mais ça fait partie des grandes utopies, mais c'est les grandes rivières. Pour l'instant, on en est au petit ruisseau.
Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, malgré tout, se mobilisent et prennent la place quasiment des États dans la politique de lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a des entreprises qui...
Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui est liée à non seulement la bienveillance de ces entreprises, par exemple, c'est vrai sur les marchés financiers, hein, il s'est développé des produits qui sont verts, entre guillemets. C'est vrai pour les entreprises qui mettent en avant. Alors, d'où vient cette prise de conscience? Elle vient un peu de l'altruisme des entreprises, parce qu'il n'y a pas de raison de supposer qu'elles ne le soient pas un peu. Mais ça vient du fait
que... L'altruisme, vous dites.
L'altruisme au sens large, ça leur coûte de l'argent et ça fait du bien au reste de la société, ça peut s'appeler de l'altruisme. Mais ça vient surtout d'une crainte de, et ça c'est très important, de la mise en place d'une politique climatique plus rigoureuse. C'est-à-dire qu'elles font des anticipations, elles imaginent qu'une politique climatique plus rigoureuse peut être mise en place. C'est très important que cette menace reste ouverte. Parce que c'est elle qui conduit les entreprises, en suivant leur propre intérêt, à entrer dans le jeu de la politique climatique, parce que cette politique climatique, elle pourrait devenir plus sévère dans l'avenir. Et donc c'est leurs anticipations sur le futur des politiques climatiques qui jouent un rôle dans leurs décisions aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne chose.
Les entreprises doivent vivre sous la menace de règles plus strictes, mais pas les citoyens. Les citoyens doivent adhérer à la politique climatique.
Le problème, c'est que les citoyens qui décident de ces règles, donc, dans un pays démocratique, donc ils sont pas... Mais les citoyens sont affectés, que ce soit directement ou indirectement. Hein. Dans le cas des gilets jaunes et de la taxe carbone, il est affecté vraiment très directement. Mais si vous mettez une taxe carbone sur l'ensemble des produits carbonés, ça modifie le système de prix et ça augmente le prix des produits carbonés que vous utilisez. Vous êtes aussi frappé, mais c'est beaucoup moins visible. Dans toutes les réactions sociales, l'évidence des phénomènes est très importante pour la prise de conscience au niveau des citoyens.
On va passer au troisième reportage de cette émission qui nous entraîne au Burkina Faso où entre sécheresse et inondation, les agriculteurs sont confrontés au réchauffement climatique et pas qu'un peu. La durée des saisons n'est plus la même, ce qui rend très difficile la programmation des cultures. Pour la saison 2017-2018, le pays a enregistré un déficit d'environ 400 000 tonnes de céréales. Le gouvernement a dû adopter un plan d'urgence de plusieurs millions d'euros pour y faire face. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Yaya Bouden.
À Didri, village situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. En attendant le début de la saison agricole, certains paysans comme Saïdou Zungrana pratiquent le jardinage pour combler le déficit enregistré au cours de la dernière saison.
Nous sommes à saison chère comme ça, il n'y a plus à part le jardinage au bord. Pourtant, il n'y a pas assez d'eau même pour faire le jardinage. Donc, quand il y a des manquements comme ça, bon, c'est du bruit. Même le maïs, tu sèmes comme ça même. Des fois, quand il va commencer à donner ces fleurs-là, bon, il peut avoir n'est pas de pluie et puis ça peut se passer comme ça.
Il y a une vingtaine d'années, la saison agricole commençait ici au mois d'avril, selon le vieux Rasmane Nikema. Mais de nos jours, il faut attendre au mois de juillet et cela a de graves conséquences sur la production.
Dans les mois, ça parle à Yahoo, à l'aide de Poulon.
La sécheresse dure longtemps ici. Quand on sème en juillet, on récolte en octobre, mais parfois on a du mal à tenir jusque-là.
En 2017-2018, le Burkina Faso a enregistré un déficit céréalier de 477 000 tonnes. obligeant le gouvernement à mettre en place un plan d'urgence pour améliorer la production de contre-saison. Le budget de ce plan s'est élevé à 81 milliards de francs CFA. Adama Savadogo est le directeur de la production agricole.
Quand on prend 400 000 tonnes de céréales, notamment de maïs qu'on valorise à 150 francs le kilogramme, vous vous rendez compte que c'est des millions.
Avec la rareté des pluies, les rendements sont faibles et certaines cultures ne bouclent pas leur cycle, entraînant des pertes au niveau des producteurs. Léonie Kinda encadre les agriculteurs sur le terrain.
Il y a un village à Pichoko. Le producteur, il a fait 1 hectare de maïs, mais il n'a rien récolté. C'était vraiment désolant.
Les services techniques du ministère de l'Agriculture travaillent alors à la mise en place de nouvelles technologies agricoles, selon Adama Savadogo, directeur de production agricole.
Il s'agit notamment des actions de conservation des eaux du sol, des actions de défense et de restauration des sols, et de l'utilisation de semences améliorées.
Des semences améliorées qui ne sont pas toujours à la portée des petits producteurs. Léonie Kinda.
Les variétés améliorées coûtent cher. Surtout si le producteur va se lever comme ça pour aller à l'INERA pour acheter. Je pense que le kilo, c'est 1500, 2000. Mais l'État, depuis 10 ans, 15 ans, l'État subventionne la semence pour les producteurs. Et il reçoit ça 15 kilos à 1000 francs.
Quant à certains producteurs de coton, ils ont tout simplement souscrit à une assurance pour se mettre à l'abri d'une baisse substantielle de leurs revenus, due surtout aux aléas climatiques.
Reportage signé Yaya Boudani, Burkina Faso, dans Écho d'Ici. D'ailleurs, Roger Guenry, vous écrivez dans vos textes que le combat contre la pauvreté et le combat climatique sont indissociables. On en voit la preuve dans ce reportage.
Oui, dans ce cas, puisque... Ça illustre un des problèmes de la politique climatique, c'est que les effets du changement climatique sur le monde sont incertains. Et là, on commence à les voir se manifester, se concrétiser dans le domaine de l'agriculture. Alors, dans le domaine de l'agriculture, c'est pas uniforme. Il y a des pays qui, pendant quelque temps, jusqu'à 1,5 degré de réchauffement, ils gagnent plus tôt. Il y a des pays qui perdent. Et là, on voit ce qui se passe. Et on est confronté à la nécessité et au coût, on va voir se concrétiser les coûts de l'adaptation.
Alors, vous avez aussi réfléchi au sous-développement en vous posant la question, est-ce que le sous-développement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de marché ou pas assez d'État? Quelle est la réflexion que vous avez menée sur ce problème-là?
Au niveau des organismes internationaux, il y a eu des périodes dans lesquelles la solution au problème du développement était le tout marché, vive le marché et rien que le marché. C'était le consensus de Washington. Et il est plus raisonnable de penser que c'est un équilibre entre les actions d'ouverture des marchés, qui jouent un rôle en général positif, et des actions étatiques qui font sens. C'est ce que dit, par exemple, mes collègues Danny Roderick, qui est un économiste informé de ces questions et que je lis avec intérêt.
Il y a un rapport qui vient d'être remis aux Nations Unies qui affirme que la lutte contre le réchauffement climatique serait générateur d'énormément de richesses, 65 millions d'emplois, des milliers de milliards de dollars de richesses. Est-ce que pour des pays comme le Burkina Faso, dont on vient d'entendre parler dans ce reportage de Yaya Boudani, c'est aussi une piste?
De fait qu'à terme la politique climatique puisse créer des richesses, c'est tout à fait clair, elle peut changer. Les innovations technologiques qui vont avec... seront bénéfiques à un certain horizon. La question, c'est de savoir quand. Moi, j'ai toujours... Dans les discussions avec Nicolas Stern, on était parvenu à...
C'est un autre grand économiste comme vous qui travaille sur ces questions climatiques.
Qui est britannique, oui, qui travaille sur les questions climatiques, qui a joué un rôle dans les négociations mondiales. On était parvenu à la conclusion, à la suite d'une longue discussion, que... La lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique, ça ne devait pas être opposé, ça devait être mis en accord. Ça ne veut pas dire que c'est évident de le faire. Mais évidemment, les pays en développement sont en première ligne pour le problème climatique, puisque beaucoup sont, comme l'Afrique, sont soumis à des modifications climatiques très importantes. Un certain nombre sont soumis à des pressions migratoires parce qu'il y a des parties du globe qui ne seront plus habitables. Et deuxièmement, les pays en développement doivent concilier les nécessités du développement qui, chez nous, s'est fait sur une base de technologies carbonées, avec la condition de ne pas utiliser des technologies carbonées. Donc, il y a un problème de connexion entre ces deux problèmes qui n'amène pas de conclusion très, très évidente sur ce qu'il faut faire.
On restera sur ce doute, Roger Guenry. Merci de nous avoir répondu, d'avoir accepté cette invitation de RFI. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver le podcast d'Écho d'ici Écho d'ailleurs sur le site www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de RFI à l'onglet émission sur votre smartphone. Toutes les références des livres de Roger Guenry auxquels nous avons fait allusion dans le cours de l'émission sont sur la page internet de Écho d'ici Écho d'ailleurs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
My baby got useless ways to play. Crazy rhythm. Following the William Faulkner step, cold women. That's the Reno poem with a bell of Chinese eyes. After midnight comes, nobody's right. For the kill to brush my hair like strokes. Looking for the gal in town warm as yellow sun. That's the Reno poem with a bell of Chinese eyes. After midnight comes, nobody's right.